La gang du matin!
Voici le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès 5h30 sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca.
Dans la gang du matin, voici le gendre parfait.
Laisse
parfait.
Les choses se déposer. Parfait. Bon, là, vas-y, qu'est-ce que tu disais?
Je disais parfait, mais pas tant.
Pas tant.
Mais c'est pas de ta faute en même temps. T'as-tu raté des cadeaux, coudon?
J'ai raté des cadeaux, puis ça m'est pas arrivé souvent, ça, dans ma vie. Oui, mais avant de parler de cadeaux, je veux juste. C'est ça, tu sais, dire à ceux qui viennent de se joindre à nous, peut-être, c'est le début janvier. C'est le retour à l'école pour les enfants. C'est un matin, gang, let's go. Retour au travail pour les parents. Mm-hmm. Retour à la solitude et l'isolement pour les aînés. C'est la fin des festivités, bref. Oui, c'est ça. Ça, c'est 2023, c'est le nouveau Pierre-François.
Ouais.
Il va nommer les choses. Je serai pas là pour constater les dégâts, mais je vous garantis que ce matin, ça va être difficile pour mes enfants.
Ah, ouais.
Oh oui, bonne chance, Cynthia. Non, mais c'est fou la vitesse à laquelle ils décrochent, eux autres. Hein?
Terrible.
C'est avant-hier, OK, ma fille de 6e année, elle m'a FaceTimé, j'étais au IGA, elle m'a FaceTimé pour me demander c'est quoi une demi-tasse de lait.
Ah!
J'étais là, Jeanne, une demi. Où est le numérateur? Où est le dénominateur?
Wow.
Je veux pas faire peur à Mme Valérie, là, mais deux semaines avant Noël, elle était capable de simplifier 54/108e à sa plus simple expression.
Oh
et là,
boy.
Une demi-tasse de lait, ça savait pas c'était quoi. Mais en même temps, quand t'es kid, la notion du temps est tellement différente.
Complètement.
Deux semaines de vacances, c'est énorme. Ouais. Après quatre jours, t'as oublié le concept d'école, carrément. J'ai rendu le 30 décembre, là, ma fille, elle devait se dire, peut-être qu'ils vont oublier. Sérieux, puis je retournerai jamais. Si j'en parle pas puis je cache mon sac, d'après moi, je retourne jamais. Des petites nouvelles pour toi. Les enfants, on n'a pas oublié.
Non.
Puis tu sais, dans la chanson, quand M. Côté, là, il nous dit « Salut, Ticu, dans trois semaines, on se reverra le 7 janvier », ben c'est ça. Là, on est le 9, là, mais c'est un matin, ça.
Ouais.
Puis M. Côté, lui, il est frais et dispo.
Ah oui.
Il a pas bu une goutte depuis le 1er janvier. Il est pas pantoute sur le même beat de se coucher à minuit, se lever à 11h que toi. Fait que, il a mis ses beaux bonheurs qu'il a reçus le 24 et il t'attend avec son algèbre.
Il est prêt.
Ouais, mais là, comme après, tu sais, chaque vacances, moi, en tant que parent, on s'est dit qu'on essaierait d'y remettre sur un horaire décent quelques jours avant.
Ah,
t'sais,
oui,
en étant on essaye de faire ça comme parent, t'sais, mais
c'est compliqué.
C'est pas possible.
Non, impossible.
J'avais ça dans la tête, puis samedi soir dernier, 11h30, je descends dans la cave, les deux regardaient Christine Morancy péter dans la face d'Arnaud Soli dans l'émission. LOL qui rira le dernier.
Christine est tellement drôle.
Dans la famille, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai ri le dernier, je vous le dis. Hier soir, à 8h30, dans son lit, elle riait moins, par exemple, pour essayer de s'endormir. J'ai pensé y faire un Christine Morancy pour l'aider, mais un jujube de mélatonine a fait l'affaire. c'est une tradition qui était le fun dans le temps de l'école, c'était de dire à nos chums qu'est-ce qu'on a reçu. Hein?
Ouais.
C'est ça que je voulais faire un matin. Là, j'ai pris une grosse introduction, je trouve. Mais en tout cas, moi, j'ai été capable du meilleur et du pire cette année. Je dirais que le pire, c'est un livre que j'ai acheté à ma femme. Angélique, de Guillaume Musso. Un auteur à succès là, qu'elle aime bien. Ça se lit tout seul, Camille. Ben, elle en a plein de lui. C'est son dernier roman. Je me dis, valeur sûre.
Bon.
Mais je vous l'ai déjà dit, c'est embêtant d'acheter un cadeau à ma femme. Pas qu'elle est difficile, mais moi, c'est parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble.
Oui.
15 Noël, 15 anniversaires, 15 Saint-Valentin. Fait 12 ans qu'on est mariés, 12 anniversaires de mariage, des petits moments improvisés, 14 fêtes des mères. Fait pas loin d'une centaine d'occasions pour des cadeaux surprises. Là. Je veux dire, j'ai acheté un bijou pour chaque partie du corps, du linge, des sacoches, du parfum, des forfaits, un sac de golf, un wallet, des lunettes, une serviette, Madonna, des batteries, des fleurs... Du vin, un vibrateur, des voyages. Fait que ça se peut-tu qu'à un moment donné, ça devienne confus dans ma tête puis que j'y achète le même livre que j'y ai acheté à sa fête il y a trois mois?
Oh non! T'as pas fait ça!
Il y a trois mois!
Oh wow!
Gros épais! Il y a trois mois!
Non!
Pas trois ans!
Oui, non, au mois d'août. C'est son dernier, Guillaume Musso. Il y a trop de livres! C'est rendu que moi, qui écrit des livres, là, cette heure?
Arrête de me regarder!
Ça devient mêlant! Mais comment j'ai fait ça avec ma carte de crédit?
Je me dis, comment t'as oublié ça?
Change d'auteur?
De quoi j'ai eu l'air devant ma famille? Ça devrait être maximum un livre aux 4 ans. Un livre aux 4 ans par auteur.
Dis-moi sa réaction. Je veux tout savoir. Dis-moi la réaction de Cynthia.
Elle m'a regardé et elle m'a dit, voyons, tu me l'as donné. Puis il a traîné pendant trois mois sur ma table de chevet. Je l'ai lu. Je t'avais dit, je l'avais pas tant aimé, puis je l'ai passé à Catherine, ma bonne chum.
Aïe,
aïe, aïe. Je sais pas le passé, hein, Catherine.
Wow.
Oui, les livres, on va se dire, c'est tout le temps la même histoire, OK? Quelqu'un.
Quand t'achètes le même, c'est clair.
Tout le temps, la même histoire.
Je viens de la pogner.
Bonne!
Quand t'achètes, là, c'est la même histoire.
Tout le monde a pogné, sauf toi.
OK. Bon,
c'est tout le temps la même histoire. Quelqu'un aime quelqu'un, mais l'autre, il peut pas. Ils peuvent pas s'aimer. Ça braille, il y a des péripéties. Il y a un personnage de meilleur ami un peu funny qui arrive, qui est joué par Mariana Mazza ou Antoine Bertrand. Inquiétez-vous pas, à la fin, ils s'embrassent à l'aéroport. Tain, 98% des livres.
T'as jamais lu Stephen King, toi?
C'est ça. Réducteur.
Bon, alors, toujours au rayon des mauvais moves.
C'est pas ta seule?
Non. J'ai aussi acheté un super beau sac à main qui devient un sac à dos. Oui. Aussi, à un moment donné, mais qu'elle est allée chercher elle-même parce que j'étais trop occupé. Donc, le 24 au soir, c'est devenu pour moi un sac surprise parce que c'est la première fois que je le voyais. Non, mais tant qu'elle est rendue là, emballe-le. Je ne l'avais pas vu.
Elle l'a emballé.
Ben oui. Je suis pas fier de ça, là. Là, le monde, il pense que je suis fanfaronne. Je suis pas fier de ça. Okay? C'est tellement honteux que le matin... J'étais tellement gêné que le matin du 24, avant que tout ça arrive, j'ai dû avoir un pressentiment avec le livre. J'ai faké une attente interminable à la boulangerie parce qu'il fallait que j'aille faire une petite commission, on s'en allait à Québec. Et j'ai acheté une paire de bottes de ski de fond parce qu'elle avait essayé ça l'hiver passé avec une de ses amies, puis elle avait trippé. Alors, j'ai sauvé Noël. Elle était vraiment contente. Puis là, on était à Québec, tu sais.
Dis-moi qu'elle a des skis toujours.
Ben, c'est ça. Elle a dit, j'ai-tu des skis? Ah! Là, j'ai fait fuck. J'ai dit, oui, ils sont commandés, ils sont pas arrivés à temps, ils vont être là, ils vont être là de Noël, puis le jour de l'an. Ça s'en vient. Fait que je suis allé acheter des skis après ça de Noël, puis le jour de l'an.
Parce que tu les avais pas commandés.
Ben non, j'avais oublié ces skis.
T'avais pas commandé?
Ben là, c'est comme ça coûte tes skis. Mais si on va aller regarder sur Marketplace, quelque chose. J'étais pressé le matin du 24, fait que là.
Je t'adore.
J'ai fait 8 minutes.
Non, mais c'est 8 bonnes minutes, là.
Je suis désolé, mais en tout cas, là, on va faire du ski de fond, puis ben, elle ira d'autres choses.
La gang du matin! Rouge.
Dans la gang du matin, voici le gendre parfait.
10 janvier, c'est fini chez vous, Noël.
Oh, je te dirais qu'un de mes moments forts de mes vacances, des fêtes, c'est même le 3 janvier, quand on s'est regardé, moi et ma femme, au déjeuner, puis on s'est dit... OK, go. On range les décorations.
Fini.
On sac ça d'un garde-robe. Le sapin, bye-bye. Les 3 bonhommes de neige sur le buffet, ciao. Les bas accrochés avec les photos de nos enfants là, sur le Père Noël des 13 dernières années, adios. Arrivederci, la boîte de panettone de Stefano qui traîne sur le comptoir depuis le 3 décembre. À 1h30, il n'y avait plus une seule trace de Noël dans ma maison.
Je te trouve bon parce que moi, j'oublie toujours quelque chose puis ça va rester là jusqu'à l'été.
Il faut que tu te fasses une petite boîte à côté pour les oublier. Justement les affaires.
La couronne, le bonhomme de neige.
En fait, la petite boîte, c'est la poubelle. c'est ça. Donc, plus une trace de Noël dans la maison, sauf dans mes culottes. Je sais pas où ces épines de sapin-là s'étaient cachées, mais il y en avait 3-4 dans le fond de la douche quand je me suis lavé le soir. C'est comme le sorbant quand tu vas dans le sud. T'en retrouves longtemps et partout. Oui. C'est le prêt à payer pour un sapin naturel, des pépines d'un crack jusqu'à Pâques. Vous riez, mais un soir, pendant les vacances, un soir que Céline était là arroser le sapin de Noël, je l'ai trouvé sur elle. Elle est venue se coller après, puis je l'ai trouvé sur elle à des endroits.
C'est de l'humour, ça, ou c'est vrai?
C'est vrai, vrai, vrai. Hein? Oui, mais je ne l'ai pas dit, je ne voulais pas déranger dans ce qu'elle faisait. voyons. Je reviens aux décorations. Quand on a fini, on n'avait pas assez. Okay? On est sorti dehors, tout ramassé. Rouler les lumières d'un cèdre, les gonflables, out le pingouin puis sa canne en bonbons, tout d'un boîte, en way dans le haut du cabanon avec le set de patio. Comme pourra le dire Jérémy Demé la semaine prochaine, c'était bien le fun, mais c'est terminé, je retourne dans les meubles.
On sera qui est sur le bloc ce soir.
Je me sentais assez bien après ça. Non, mais attention, j'aime ça le temps des fêtes, mais j'aime ça aussi que ça s'arrête. Hein? Autant je suis enivré par les chansons puis les cantiques dans le mois de décembre, autant le 2 janvier, je trouve que la musique de Noël, c'est du criage puis de l'époumonage avec des grelots. Je
comprends.
On est rentré dans la maison, ma femme, comme deux grincheux assoiffés de destruction. On n'était pas rassasiés. Notre envie de remettre de l'ordre dans notre espace de vie bouillonnait en nous. Cynthia a dit, Julianne, Ça te dérangerait-tu? Ça te tente-tu qu'on aille te faire une nouvelle chambre? Je trouvais ça brillant. Brillant parce que l'enfant décode pas que ça veut dire « Juliane, veux-tu qu'on aille sacrer au vidange toutes les cochonneries que tu gardes compulsivement dans tes tiroirs tellement qu'il n'y a plus de place dans ton linge pour ton linge?
Ouais. »
Et là, le grand ménage du deuxième étage a commencé.
Ah, oh, wow! Vous avez fait ça dans les vacances, ça fait, bravo!
Oui, 3 janvier. Ça fait tellement du bien. Là. Moi, en parallèle, j'ai cliné mon bureau qui est à côté de la chambre à Juliane. Puis je vais vous dire, je suis pas clair de nous, moi non plus. Je suis pas toute là.
T'accumules?
Oui, j'accumule. On accumule tellement d'affaires. Faites ça, ça fait du bien. Vous dire la quantité dans la chambre à ma fille de faux ongles, puis de vernis, de collant diamant, puis de petite boîte. J'ai trouvé une boîte de chandelles qui sentent le sucré puis la fleur avec des notes de vanille, des produits Bath and Body Works.
Oui, grosse tendance.
En ouvrant la boîte, ça puait. Là. J'avais l'impression qu'on allait découvrir un cadavre de licorne. Le linge, mon Dieu, qu'on a du linge. Puis, tu sais, moi, ma femme, elle a beaucoup de qualités, mais entre autres, la lessive, pas que je veux pas la faire, mais Christy, elle opère.
Ah ouais.
Elle va vite. Fait que t'as pas le temps de te rendre dans le fond. Fait que finalement, je pense qu'on pourrait tous vivre avec deux paires de bobettes.
Ben
là,
oui.
Parce que ça revient tellement vite. Donc, ça, on a fait un ménage aussi. On a rempli pour Renaissance et compagnie. On a rempli des sacs. Ben faites le ménage de vos tiroirs. Ça fait... Moi, dans mon bureau, c'était surtout de la paperasse.
Mais dirais-tu parce que c'est prouvé qu'il y a de désencombrer de même?
Oui.
Tu le fais dans le matériel, puis ça te désencombre la tête.
Je le dirais, là. On dirait que t'as lu ma finale.
Ah,
Non, mais t'as bien fait de le dire tout de suite. Je vous dis, là, le soir, là, j'étais bien.
Libéré.
J'étais
hein?
bien dans
Plus
ma tête.
Léger.
Exactement. Dans mon bureau, là, je suis passé à travers une pile de papiers. C'est décourageant. C'est des garanties d'affaires que j'ai même plus. Sur mon bureau, j'avais le mode d'emploi, puis la garantie de notre ancien lave-vaisselle. Ça veut dire que j'ai eu le temps d'acheter le lave-vaisselle. L'utiliser durant sa durée de vie normale, de le remplacer, puis j'ai encore sa garantie sur le coin de mon bureau. Une pile de papier que j'osais pas affronter. J'avais une boîte de CD-ROM, à un moment donné.
Voyons.
Le logiciel d'installation de la caméra vidéo que j'ai acheté quand Cynthia est tombée enceinte. Ça va, tu sais, si je m'en suis passé pendant 14 ans, je pense que je pourrais le laisser partir pour le cimetière des CD.
Oui.
Claude Rajotte.
Hein? Va s'en occuper.
Je te salue où que tu sois.
Ah, je pensais que tu disais que tu avais retrouvé un Claude Rajotte.
Ben oui.
Ben voyons.
Non, le cimetière des CD.
Ben non, je sais bien.
Ah, ben oui. J'en profite d'ailleurs pour plugger l'excellent livre On écoutait Musique Plus, disponible dans toutes les bonnes bibliothèques du Québec.
Tu l'as envoyé chez Renaissance aussi dans ton ménage.
Non, j'attends de le lire. Bref, je peux pas tout vous dire le bien que ça m'a fait de ranger les espaces qui manquaient d'amour chez nous. Puis là, le garde-robe dans l'entrée paraît rien pour attendre, hein, parce que j'ai compté pas loin de 9 cache-coups.
Ah,
moi et ma femme, on met des foulards, OK? Puis mes enfants ont un coup chacun. Fait que, honnêtement, là, il y a de l'exagération. Le lendemain, par contre, après avoir fait ça, j'étais tellement investi d'une mission, j'ai acheté des étagères de rangement. Une pour le dessous de l'évier.
OK.
Changer ma vie.
Ah oui.
Changer ma vie.
Ouais.
Ça coulisse, c'est fait pour épouser le contour. Écoute,
c'est
bien.
C'est vrai qu'on pitch les bouteilles.
Oui, écoute, ça va bien. Puis j'ai une autre pour le coin atelier dans mon sous-sol. J'ai passé une partie de la journée là-dessus. J'ai tout monté ça. Les rentrées de compresseur, rentre-bain, tout ça, ça fait tellement du bien. Donc, merci, Mère Nature, de nous avoir empêchés d'aller skier parce que je respire mieux maintenant, avoir passé 2 jours à faire du ménage. Puis là, j'ai racheté 8 étagères. On sait jamais, hein? Au pire, j'en monte une, puis les autres, j'ai laisse dans les boîtes, puis j'y range dans l'étagère que je viens d'avoir monté. Je vais en racheter de même jusqu'au bout. Voilà, je suis pas calme.
Merci.
Faites-le, je vous jure, ça va vous libérer l'esprit.
Ouais. Bon rappel en début d'année. La gang du
matin. Rouge.
Dans la gang du matin, voici le gendre parfait.
Ah, brillant, Pierre-François Legendre, tu nous amènes dans un sujet super important.
Oui. Et je pense pas être en mesure de blaguer ce matin avec ce dont j'avais envie de discuter avec vous, mais parce que c'est un sujet tout aussi délicat qu'important.
Ouais.
Alors, il y avait un article dans la presse la semaine dernière, signé par Robert Whitley, professeur au département de psychiatrie de l'Université McGill, concernant une demande du ministère de la Santé du Québec faite aux enseignants, enseignantes et bibliothécaires de ne pas recommander ou même de ne pas parler aux élèves du roman de François Blais, Le garçon aux pieds à l'envers, Les chroniques de Saint-Sever. prétextant que ce roman-là pourrait entraîner des idées suicidaires chez les jeunes.
OK.
Okay. Alors, tout d'abord, je dois vous dire que je n'ai pas lu ce roman-là. Mais je sais que l'héroïne a 14 ans, que c'est un roman qui s'adresse aux ados, et qu'il est question d'une entité maléfique, c'est un peu science-fiction, qui pousse des enfants à commettre des gestes qui pourraient mettre fin à leur jour. Comme, donc, c'est comme s'il y avait une force maléfique là, qui disait aux enfants...
Qui te conduit jusqu'au
suicide. Exactement. Ouais. Mais il semblerait qu'il n'y a pas vraiment de suicide à proprement parler.
Okay. En tout
cas, comme je vous dis, je ne l'ai pas lu. Et je dois vous rappeler que malgré ma grande crédibilité, je ne suis pas psychologue.
Okay.
Hein? Non, mais des fois, les gens l'oublient. Là. J'ai vu Goodwill Hunting comme tout le monde, mais c'est tout. Là. Alors, je n'arrive pas avec des réponses. Et surtout, on ne fera pas le procès de ce roman-là que personne ne lit ici, pense. OK. Mais les craintes du ministère, qui sont aussi partagées par des intervenants en prévention du suicide et des psychologues, c'est que le livre soit un déclencheur, une motivation de passer à l'acte pour certains jeunes avec une santé mentale déjà fragilisée. Mmh. T'allais dire quelque chose, Mathieu?
Ben, j'allais dire, en fait, ça me fait penser à 13 raisons pourquoi, 13 reasons why.
J'y arrive, tu vois. Il semblerait que, puis là, les études s'entendent pas toutes, là, mais que le fait d'être spectateur d'un suicide fictif au cinéma, à la télé ou en littérature pourrait augmenter le taux de suicide, le type de suicide qu'on appelle suicide par imitation.
OK.
Ce qui ferait du sens. Je veux dire, ça se mesure pour vrai dans le cas d'un vrai suicide. Qu'on pense à Kurt Cobain ou à Dédé aussi. Il y a eu des répercussions enregistrées, mesurées. Mais en fiction, on dirait que je doute. Mais je continue ma réflexion.
Ouais.
Pourquoi ce cas-là mérite autant d'attention? À cause de l'auteur, François Blais. C'est pas n'importe qui, ça se peut que vous le connaissiez pas, là, mais c'est un auteur qui a vraiment marqué une génération. Mm-hmm. C'est un prix du gouverneur général littérature jeunesse, prix des libraires, j'en passe, là, adulé des critiques, jamais eu de difficulté à se faire publier, mais qui malheureusement s'est enlevé la vie en mai dernier, quelques mois après avoir terminé l'écriture du roman dont je vous parle. Ce qui rajoute évidemment une couche.
Ben oui.
Ce qui rajoute à l'aspect mythique du roman. C'est pas le bon mot, mythique, là, mais marquant, symbolique. C'est ce qui fait peur, je pense, au ministère de la Santé. Parce que là, tu lis ça.
Il écrivait ça.
Tu dis ça, puis après ça, c'est tout. Donc, l'acte devenait romantique, alors que c'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes, que ce n'est pas romantique. Mais il y a quelque chose d'héroïque.
Tu as dit Dédé Fortin. Si tu réécoutes dehors, novembre, après, tu fais, mais voyons, il parle de ça tout le long, puis ça finit de même.
Mm-hmm.
Tu sais, tu fais,
donc, tu dis, il y avait une finalité, il y avait... Puis Roméo et Juliette, là, puis je reviens dans la fiction, Roméo et Juliette, une œuvre qui a parlé aux adolescents, ces deux adolescents passant Roméo et Juliette, là, qui se suicident par amour. Tu sais, quand on sait que c'est à l'adolescence que les peines d'amour font le plus mal, on fait quoi avec ça? Puis là, désolé de vous avoir dit le punch de Roméo et Juliette, mais en même temps, c'est sorti en 1597.
Non, puis on dit aussi que c'est la plus grande histoire d'amour du monde, mais fini toujours bien de même.
Ben c'est ça. Ben, donc, est-ce que tu le présentes? Est-ce que tu mets à l'index Roméo et Juliette de Shakespeare? Parce que j'ai pas de misère à croire qu'un ado, avec tout ce que ça comporte, là, comme mélange explosif d'hormones, qui ne trouve plus de raison de vivre et qui s'identifie à un personnage d'une série qui s'enlève la vie, ça peut avoir probablement un effet banalisateur du geste, présenter le suicide comme une solution. D'ailleurs, on en parlait de 13 Reasons Why.
Ouais.
C'est sorti sur Netflix, puis ça a créé beaucoup de remous pour ces raisons. Là, c'est une ado qui laisse des cassettes audio pour essayer de... Bon, ça a comme effet de culpabiliser ceux qui l'ont intimidé, tout ça. Donc, on voit l'après-suicide. Donc, évidemment, il y a des jeunes... Puis, tout était fait dans la série pour que ça parle aux jeunes.
Ouais.
La facture visuelle, le héros. Donc, je comprends le danger.
Il y a quelqu'un, pendant que tu dis ça au 6-12-13, qui est complètement là-dedans, a dit, quand j'ai écouté ça, moi, en secondaire 2, a dit, la jeune troublée que j'étais, il a vu du réconfort. Parce que c'est bien beau de dire, on montrera pas ça, mais ça enlève pas le mal-être que toi, t'as peut-être en dedans. Puis là, tu comprends ce que je veux dire?
Oui, oui.
OK, il y a quelqu'un d'autre qui ressent ça. Bon, là, c'est une fin de même, mais on peut-tu présenter d'autres choses à partir de... On peut-tu être accompagné là-dedans?
Bien, c'est là où je veux en venir.
Il faut être accompagné quand on parle de troubles psychologiques.
Absolument.
Parce que de pas les voir, ça les...
Mais c'est ça, de cacher, ça règle rien non plus. Là,
mais il y a quelque chose que ça fait quelques fois que je dis là, depuis que j'ai commencé à parler de ça, mais on dit des personnages auxquels les ados s'identifient, qui se suicident, sont problématiques. Donc, OK. Mais Vierge, il me semble que si tu réussis l'exploit de créer une œuvre qui intéresse les ados, ben t'as un maudit gros bout du travail de fait, non? T'es captif, là, parce qu'il n'y a pas de meilleur détecteur de bullshit qu'un ado, là.
Ouais.
Tu sais, oui, une affiche dans une école qui dit « Yo, appelle si t'as des soucis », c'est correct aussi.
Mm-hmm.
Mais si t'as un livre, un film, une série qui tient en haleine, il me semble que c'est un bon moment d'aborder le sujet. Puis je dis pas de mettre ça dans le cours des profs, là. C'est pas le temps de.
Mais
là, tes qui sont tous, ils trippent tous sur l'œuvre. Il me semble que c'est le temps de leur expliquer l'importance de s'accrocher à la vie et non à un crochet, pour paraphraser le colocasse. Mais je comprends que même si les craintes du ministère de la Santé sont fondées, ça révèle surtout un très grand manque de moyens.
Voilà. Ouais.
Parce que peut-être qu'on en tirerait tous un grand bénéfice si les jeunes pouvaient avoir au programme des lectures avec des contenus sensibles, mais à condition d'avoir un intervenant ou un psychologue formé dans chaque école pour débriefer le sujet après. Parce qu'effectivement, tout seul entre les mains d'un ado, il y a certaines œuvres qui peuvent peut-être, potentiellement, être dangereuses. Mais pas si t'es accompagné, mais surtout s'ils sont intéressés par l'œuvre. Tu fais « go, on les a, là, là
».
Pas facile. Alors, il me semble qu'au lieu de balayer le problème en dessous du tapis puis de mettre la faute sur des œuvres de fiction, ben débloquons des moyens encore. Même si le gouvernement fait des bons efforts puis en santé mentale, ils ont investi beaucoup,
Mais
il en manque.
Mais sortons la tête du sable que non, ils vont bien, les ados, puis même les plus vieux. Là. Non,
je vous ai pas sorti les statistiques, mais ça va pas bien. Les tentatives de suicide, entre autres, chez les jeunes filles, ont augmenté dans les dernières années.
Non, mais accompagnons, puis soyons conscients du problème, puis prenons-les au sérieux. Un ado qui dit, tu sais, une peine d'amour, tu le dis, là.
Oui.
Fais rien, non, tu vas en avoir d'autres. Non, une peine d'amour, quand tu as 15 ans, c'est la pire affaire de ta vie.
Oui, ça prend. Faut que quelqu'un soit capable de t'amener à voir après la peine d'amour.
Oui.
Puis t'as tellement le goût de dire à des ados qui souffrent présentement, rends-toi 18. Tout va changer, tu sais. Passe au travers.
C'est niaiseux parce qu'on a commencé de même à 5h25, là, mais essaie d'apprécier comment tout est temporaire.
Ouais.
Il peut pas pleuvoir tout le temps.
Tout est temporaire, la gang.
Merci beaucoup, Pierre-François.
Avec plaisir.
Dans la gang du matin, voici le gendre parfait.
Qui s'intéresse aux sports de riches versus les sports de pauvres.
Oui, c'est rough un peu quand on dit ça de même.
Ben,
mais c'est la réalité.
Ben,
et
oui.
Moi, je m'en suis jamais caché. J'ai été élevé dans la ouate, OK? Dans le sens de très confortable.
Ouais.
J'ai jamais manqué de rien. Mes deux parents avaient des bons emplois. J'avais du linge neuf à chaque rentrée, de la viande dans le macaroni. J'ai appris l'espagnol avec notre jardinier. Mon premier cheval a déjà été champion canadien. C'est une joke. Il a fini deuxième. Ben non. Ah.
Après le macaroni, c'est plus vrai.
Oui, c'est ça. Il n'y a plus rien. Donc, disons que j'étais dans la petite bourgeoisie. OK?
OK.
Mais moi, j'ai jamais pris conscience de notre niveau d'aisance, mettons, on va dire ça de même, parce que je côtoyais seulement d'autres mange-marde comme moi. Au secondaire, là, mes amis, ils jouaient dans des ligues de hockey. Moi, j'étais dans la gang fluo qui faisait du ski alpin, du tennis. Puis, naïvement, je pensais que c'était le quotidien de tous les jeunes Québécois.
OK.
C'était très naïf de ma part, mais j'en ai déjà parlé ici. Il faut trouver des solutions, des façons de mixer les classes sociales.
Absolument.
Je sais pas par quoi ça va passer, mais tu sais, je veux dire, je suis pas câble. J'étais quand même au courant qu'il y avait de la pauvreté, là, on s'entend. Ouais. Là, je n'avais entendu parler, là, grâce à ma boîte d'UNICEF, entre autres. mais c'est seulement rendu, je dirais... je fais des blagues. C'est seulement rendu, je dirais peut-être au cégep, là, que j'ai réalisé à quel point je faisais partie d'une minorité de chanceux qui avaient gagné littéralement la loterie de la vie.
Ben oui.
Puis, parce qu'une des rares occasions de croiser d'autres écoles au secondaire, c'est via le sport interscolaire.
Mm-hmm.
L'équipe de basket, de football, d'impro... C'est du sport, OK? C'est du sport. Mais on parle souvent de l'importance de bouger pour les jeunes, mais moi, j'étais pas inscrit dans ces sports-là. Je faisais du sport ailleurs.
Okay.
Parce que, et c'est là où je voulais en venir, c'est que les classes sociales existent aussi dans le sport.
Ben oui.
On dit que le hockey, c'est le sport national des Québécois. Mais selon un sondage léger de 2021, c'est 6% des Québécois qui jouent au hockey.
Mm-hmm.
Et 7% qui font du ski alpin. Puis ça donne une idée de l'état des finances au Québec, je crois. C'est plate à dire, mais il y a des sports de riches. Tu peux jouer au hockey dans la rue, ça compte pas. Je sais pas si tes gars vont jouer au hockey ou jouer au hockey.
Ne jouent pas présentement, mais ils jouent dans leur
parce que toi, t'en as deux aussi.
Ben oui, exact.
Un parent qui veut inscrire son enfant dans une ligue de hockey, là, qui s'intéresse à ça, il s'en sortira pas beaucoup pour en bas de 1 000 $. Ça, c'est si t'achètes tout l'équipement usagé. OK? Puis il n'y a pas de cas d'entraînement au mois d'août là-dedans. Là. Ça peut aller facilement jusqu'à 5 000, 6 500 si l'enfant est bon et progresse dans des catégories élites. Par année, par kid. Okay? Puis il n'est pas là, c'est pas un espoir, là, non. Genre, là, il, monsieur, madame, faut qu'il continue. Il,
non, mais...
il a 13 ans, puis on le sait qu'il va faire la ligue. Là. Non, c'est quelqu'un qui s'amuse.
C'est sa passion pareil.
Ben, complètement.
Moi, j'adorais le patinage artistique. J'aimais tellement ça, puis j'ai arrêté parce que ça coûtait bien trop cher.
Es-tu sérieuse? Ben, oui, parce que le coût des cours, un prof privé, parce qu'effectivement, il y a des sports solitaires comme ça, tu as besoin d'un prof.
C'est ça. Fait que c'était, ben, toi, si tu continues, tu vas avoir un prof 15 minutes par pratique, alors que l'autre à côté, elle en a un 3 heures. Fait que là, tu progresses pas au même niveau.
Oui, ben oui.
C'est bien parfait. On va arrêter. Oui. Mais c'est un grand drame de ma vie.
Je comprends. Puis ça, c'est un sport où le parent peut se sacrifier. Mais avez-vous pensé au ski alpin? Tu sais, le ski alpin, ça prend des cours. Puis jusqu'à l'âge de 12-13 ans, il faut que tu skies toi aussi. Tu sais, c'est très souvent un sport que toute la famille pratique. Bottes, ski, bâton, casque, lunettes, habits de neige, cagoule, mitaine, barrure, sac à bottes, hot shot, chocolat chaud, poutine. Un abonnement de saison à Bromont, c'est genre 3 400 $ pour la famille.
Les billets, là, c'est infernal comment ça coûte cher.
C'est parce que quand les enfants grandissent, il faut que tu renouvelles le stock à chaque année. Fait qu'il y a des nouvelles dépenses à chaque année.
Je vous conseille la location à long terme, effectivement. Oui. Mais alors, je pense que j'ai pas besoin même de vous parler d'équitation. Hein? Juste en carotte, ça doit coûter plus cher que le ski. Alors, oublions pas qu'on vit dans un pays riche.
Ouais.
Donc, quel sport, selon vous, coûte le moins cher à pratiquer? Les push-ups, oui.
Ben, la course.
Ben, la course à pied, exactement. Ouais. Et d'où viennent les plus grands marathoniens? Kenya, Éthiopie. Hein? Pour des raisons évidentes. À Dubaï ou Vegas, il n'y a pas grand monde qui court pour se divertir.
Je comprends.
Et évidemment, aussi, dans le même ordre d'idée, le soccer est le sport le plus populaire au monde. Puis la seule raison, c'est que ça prend des pieds et un ballon.
Mm-hmm.
Je veux dire, n'importe qui peut jouer. Tu peux être pauvre et t'amuser et jouer. Puis je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder l'alignement de l'équipe de France du dernier mondial. Ça se voit, évidemment. Okay. Mais si tu commences à t'intéresser puis tu vas voir d'où viennent ces gars-là, tu vas te rendre compte qu'il y a un gros manque de Français de souche.
Ouais. Ouais.
C'est limite raciste, là, je te dirais. Je pense que c'est 4 sur 26. Sérieusement, la France est un pays riche avec une grande partie de sa population issue de l'immigration africaine.
Ouais.
Donc, encore là, c'est plate à dire, mais de pays pauvres à cause des guerres, des dictateurs, des sécheresses. Mais donc, les Français riches, là, ils font du ski dans les Alpes, du vélo en Alsace, de la voile en Bretagne. Mais les immigrants qui sont arrivés dans les cités avec une valise seulement, ils ont eu des fils qui ont joué au soccer dans Ruelle, tu sais, et qui ont représenté la France à la dernière Coupe du monde. Vous connaissez, en terminant, Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur français.
Son
papa est un immigrant camerounais, meilleur joueur au monde.
Okay.
Certains trouvent indécent le salaire de 630 millions d'euros pour 3 ans qu'il vient de signer.
Ben,
je ne sais pas si c'est aussi indécent que le niveau de pauvreté au Cameroun, mais Christy, que ça doit être satisfaisant pour des milliers d'immigrants de voir que c'est pas seulement la France qui s'est rendue en finale, c'est aussi un peu le Congo, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Algérie, et bien sûr, le Cameroun de Mbappé. Alors, allez, mec, fais sauter la banque!
Wow! Brillant, Pierre-François, merci pour ta réflexion.
Un plaisir.
Dans la gang du matin, voici le gendre parfait.
Si on donnait un titre à ce que tu vas nous raconter, ça pourrait être la fois où mes enfants se mettent en danger.
Exactement. Puis là, je m'adresse aux parents d'entrée de jeu. Guillaume, je vais aller me chercher des oignons.
Faut faire un bout.
Non, c'est pas vrai. Mais je sais pas si ça vous fait ça, vous, les parents, là, mais moi, quand un de mes enfants se fait mal, je le ressens physiquement.
Ben oui.
Ça me fait mal.
Ouais.
Puis je deviens fru même. J'ai le goût de briser des affaires au lieu de porter secours et consoler l'enfant. Ça me choque. Là. Tu sais, comme quand je me fais mal, moi, je deviens fru. Là, je peux passer une mauvaise journée à cause de ça.
Okay.
Et quand mon fils avait 3 ans, par exemple, il a dû être hospitalisé pour un bon virus. Puis à un moment donné, j'ai un souvenir très marquant de la fois où moi et une infirmière, j'ai aidé une infirmière à l'immobiliser pour qu'elle y mette le cathéter, parce que c'était le deuxième, parce qu'il savait vraiment ce qui s'en venait. Puis il me regardait genre, t'es de son bord, maudit chien sale!
Il
catchait pas. Je vous jure, ça m'a pris 3 jours à me remettre de ça. J'ai été hospitalisé d'ailleurs. Non, mais ceci explique peut-être le fait que ma fille de 11 ans a pas les oreilles percées. J'ai jamais voulu. Pourtant, je vois bien dans mon entourage là, que les petites filles, en majorité, ils ont percé. Là, parce que quand son bébé, je pense, là, clic-clic, la suce, tu consoles un peu, puis c'est réglé. Mais moi, j'étais pas capable. C'était viscéral. Ma sœur non plus, d'ailleurs. J'ai déjà entendu mon père lui expliquer à ma sœur que ça ne rentrait pas dans la tête de faire 2 trous dans ce qu'il y avait de plus précieux, sous prétexte qu'il est normal pour une fille de se décorer avec des bijoux.
Ah, ben.
Ça se défend. Oui. Ça se défend.
Oui, oui,
ceci mais... dit, je sais que c'est pas un gros traumatisme. Je pense là, se faire percer les oreilles, mais ben... ça m'est sûrement resté dans la tête parce que même si c'est un peu extrême, là, puis je juge surtout pas les parents ben qui non. font ça là, vers leur fille, là, vers un an et demi, mais moi, j'ai fait hey, tu décideras. Tu ouais. décideras. Puis aujourd'hui, elle comprend. Elle comprend mon.
Tu le fasses quand t'es bébé parce que nous autres, Joséphine, elle voulait vraiment genre à 5 ans et demi. Puis elle a eu une nouvelle mode, une oreille percée. Parce hein? qu'elle n'était pas capable de faire la deuxième. Ah, traumatisée, oui? raide.
Mais ça, ça ils ne peuvent pas faire comme on va être deux.
Ouais.
Pack des deux barres en même ça. Temps. Là, parce que, tu sais.
Mais, ou alors.
En tout cas, il existe des pinces. Mais c'est quand même minime comme ouais. mal. Là.
Ben, du... probablement, mais moi, ça me rentrait.
Ça marchait.
Je ne suis pas capable. Je vais passer un moment. Tu décideras plus tard.
Les fois où ça a été plus sérieux, j'imagine. Oui, c'est ça. Ben,
oui, parce que c'est quand même une. Ma fille, c'est vraiment une casse-cou. Elle cherche justement à se mettre en danger depuis l'âge de 8 mois, en fait.
Oh boy.
Cynthia l'avait dans le porte-bébé, mais tu sais, du côté face, là, face à la vie. Oui. Là, fait que dans ce sens-là, tu vois pas trop ce qu'ils font. Là. D'ailleurs, ouais. Elliot a déjà volé une grosse Mr. Big au dépanneur dans le porte-bébé de même. On s'en est rendu compte d'ailleurs. Mais là, Cynthia était à la pharmacie. Et à un moment donné, la petite fait un drôle de bruit. Elle s'étouffe un peu. Fait que Cyn, elle sort du porte-bébé, elle regarde, puis elle s'était ramassé un paquet de barrettes. Tu sais, les petites barrettes en métal cordées.
Ouais, ouais, ouais.
Elle avait commencé à gruger le tiers du paquet. Là.
OK.
Puis, il manque une barrette. Fait que là, fait comme, voyons. Puis là, elle regarde, puis elle joue, puis si c'est ouvert, ces barrettes-là, c'est pointu.
Oui.
Fait que là, moi, je tournais, elle m'appelle, en panique. Elle dit, je suis certaine qu'elle en a avalé une, je capote, ça va y percer l'estomac, puis tu peux-tu t'en venir? Ça spinait dans sa tête.
Ben moi, oui.
Là, j'ai réussi à la convaincre qu'elle devrait aller à l'hôpital, puis je dis, amène la petite aussi, d'un coup, qui peut faire quelque chose pour elle aussi. Le tournage me libère plus tôt. Okay. Je vais la rejoindre à Sainte-Justine, urgence, radiographie. Et là, le docteur confirme nos craintes.
La barrette est là.
Il voit la barrette sur la radio.
Mais, du bon bord?
Il est pas capable de voir si elle est ouverte ou pas. C'est vraiment comme une affaire qui clique.
Ouais.
Et il nous dit qu'elle est plus accessible par voie orale. Parce qu'elle a commencé son voyage vers les ténèbres.
Oui.
Puis il examine une des autres barrettes parce que Cynthia avait eu la présence d'esprit d'acheter le paquet. Là. Moi, je trouvais que c'était du gaspillage. J'avais à peu près 12 cheveux sur la tête.
Puis il en manquait une.
Il
va chercher un paquet neuf au moins.
Mais le doc nous dit, en ouvrant et en fermant la barrette, il dit fermé, je pense qu'elle passe, mais ouverte, avec le petit bout pointu, ça va accrocher.
Ah, non.
Il dit, là, retournez à la maison, mais veillez-la toute la nuit. Il dit, veillez-la toute la nuit. Moi, je me dis, ah, fuck, je pensais pas, c'est une belle nuit, dormir sous mes deux oreilles, non.
Ça.
Il dit, si elle a passé l'estomac, c'est bon signe, mais aussitôt qu'elle manifeste de l'inconfort, la petite, ça va pas, là, vous voyez, vous en êtes tout de suite à l'urgence, puis on va devoir opérer.
Hey, là, puis là, c'est over, regardez, c'est-tu l'inconfort? C'est sûr que tu
n'es fou.
Là, moi, j'ai juste demandé, OK, docteur, quand est-ce qu'on va savoir qu'elle est hors de danger? Et là, ma femme puis le médecin m'ont regardé et dans toute ma vie, j'ai pas souvenir d'un silence aussi explicatif que ça.
Oh mon Dieu!
Il dit, vous allez fouiller, monsieur. Vous allez fouiller dans la couche, monsieur.
Oh,
fait qu'on est revenu à la maison avec un pas pire stress. Moi, je faisais juste me dire, comment je vais faire pour pas vomir, chercher là-dedans. Finalement, on a eu une nuit très calme.
Okay.
Vers 6 heures... Juste à l'odeur, je comprends. OK, mon stage d'archéologie commence. Sur l'heure du... Je trouve rien. Sur l'heure du souper, rien. Deuxième nuit très calme. Elle se réveille. À un moment, je la vois forcée de la face. Je mets mes gants, ma frontale. Je sors mon tamis. Puis là, comme un Indiana... comme un Indiana Jones devant l'arche perdue, je trouve enfin la barrette qui était fermée. Elle me faisait des bulles. Et j'ai emporté la barrette!
Arrête!
T'as gardé! Oui! C'est pas très... On la mettra sur la page Facebook.
Vous écoutez la gang du matin.
Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en semaine dès 5h30.
Le matin, on est tous sur la même fréquence.
Rouge.